VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 12 mai 2023. Dernier virage avant les élections législatives et locales en Mauritanie qui se tiennent demain samedi. Soudan, les généraux rivaux s'engagent sur les couloirs humanitaires, mais pas de trêve dans les combats pour le moment. Au Mali, l'ONU accuse l'armée et ses supplétifs d'avoir exécuté plus de 500 personnes. Les États-Unis font face à un afflux de migrants à la frontière avec le Mexique après l'expiration jeudi du titre 42 qui permettait d'expulser les migrants.
La réalité est que vous avez des milliers, plus de 2000 qui viennent chaque jour.
Reportage à suivre à la frontière méridionale des États-Unis dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Élections législatives régionales et communales ce samedi en Mauritanie. Plus de 1,7 million d'électeurs sont appelés aux urnes. La campagne électorale s'est achevée hier et des observateurs parlent des chances de victoire du parti au pouvoir, mais n'écartent pas une percée de certaines formations de l'opposition. À Nouakchott, retrouvons Mohamed Diop.
25 partis politiques sont en lice dans cette triple compétition électorale. On vote pour les législatives, les régionales et les communales. Et le parti au pouvoir Al-Insaf semble déjà prendre une avance, selon une étude de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI, chargée d'organiser le scrutin, informe que seul le parti au pouvoir est présent sur toutes les circonscriptions électorales. D'après l'étude, l'opposition cherche au maximum 2/3 des sièges au Parlement. Sauf que le parti au pouvoir doit faire face aux mécontents non inscrits sur les listes, ce qui risque d'impacter sur ses résultats. Toutefois, les observateurs de la scène politique mauritanienne avec qui nous avons échangé croient aux chances de deux formations de l'opposition, à savoir le parti islamo-conservateur Tawassoul et la coalition alternance démocratique autour du célèbre militant des droits de l'homme Biram Dabeid, qui a été 2 fois deuxième dans une élection présidentielle. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Pas de cessez-le-feu au Soudan, Khartoum subit toujours des frappes aériennes et des explosions en dépit de la signature d'un accord sur l'ouverture de couloirs pour permettre aux civils de quitter les zones de combat et à l'aide humanitaire d'arriver. Alexandrine Olognon.
Les émissaires des deux généraux soudanais ont signé une déclaration de Jeddah pour la protection des civils au terme de 6 jours de négociations sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Toutefois, le document de 4 pages ne mentionne pas de trêve. Dans la capitale Khartoum, des témoins font état de passages d'avions de chasse et de bruits d'explosions et de combats. La situation est particulièrement sensible au Darfour, où les habitants sont coupés du reste du pays, selon l'ONU. Washington et Riyad ont annoncé jusqu'ici avoir obtenu des promesses de cessez-le-feu jamais respectées. Les tractations vont se poursuivre pour parvenir à une nouvelle trêve permettant l'acheminement de l'aide, pouvant aller jusqu'à 10 jours selon le département d'État américain. D'après les chiffres de l'ONU, plus de 200 000 personnes ont fui les combats qui ont fait plus de 750 morts et 5 000 blessés.
Volker Perthes, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, a confirmé aujourd'hui que les négociations sur un cessez-le-feu reprendrait d'ici 1 ou 2 jours, décrivant un changement de position des parties belligérantes qui pourrait les inciter davantage à respecter tout accord futur. L'ONU accuse l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération anti-djihadiste à Moura, dans le centre du pays. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce vendredi par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le point avec Nani Talani.
Le Haut Commissariat dit avoir des motifs raisonnables de croire qu'au moins 500 personnes, dont une vingtaine de femmes et 7 enfants, auraient été exécutées par les forces armées maliennes et les personnels militaires étrangers entre le 27 et le 31 mars 2022 à Moura, une localité de quelques milliers d'habitants. Le rapport onusien note aussi des motifs raisonnables de croire que 58 femmes et jeunes filles ont été victimes de viols et autres formes de violences sexuelles. L'ONU fait par ailleurs état d'actes de torture sur des personnes arrêtées, ajoutant que ces agissements pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le rapport est basé sur une enquête de la Division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali depuis 2013. Il n'identifie pas les étrangers en question, mais cite des témoignages les décrivant comme des hommes blancs en treillis, parlant une langue inconnue et qui supervisaient les opérations. La junte malienne rejette les accusations d'exaction contre les forces armées et assure faire respecter les droits. La justice malienne a annoncé en avril 2022 l'ouverture d'une enquête.
Le groupe minier français Orano a annoncé aujourd'hui avoir évacué du nord du Niger des expatriés vers la capitale Niamey après avoir reçu une alerte sécuritaire. La direction d'Orano au Niger a été alertée jeudi soir d'un événement sécuritaire dans un village situé à mi-chemin entre la frontière malienne et la ville d'Arlit. Le groupe indique dans un communiqué que des mesures ont été mises en place pour la protection des sites et du personnel et la sécurité des installations industrielles a été renforcée. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré au Parlement qu'une enquête sur la visite d'un navire russe à la base navale du Cap était déjà en cours. En coulisses avec l'aide des services de renseignement américains. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain ont exprimé aujourd'hui dans une conversation téléphonique leur volonté d'accentuer la coopération entre les deux pays, selon le Kremlin, au moment où les États-Unis accusent Pretoria d'avoir fourni des armes à Moscou. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d'accentuer de nouveau les relations mutuellement bénéfiques dans divers domaines, a affirmé le Kremlin dans un communiqué qui ne mentionne pas les accusations de Washington.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la levée du titre 42, une mesure de restriction d'accès au territoire américain, plonge dans l'incertitude des milliers de personnes à la frontière sud des États-Unis. Washington promet d'appliquer fermement de nouvelles règles, suscitant de nouvelles préoccupations pour ces migrants. Le point avec Eric Manirakiza.
Le titre 42, censé limiter la propagation du COVID-19, conférait la possibilité aux autorités américaines de refouler immédiatement tous les migrants entrés illégalement dans le pays, y compris les demandeurs d'asile. De nouvelles restrictions au droit d'asile sont immédiatement entrées en vigueur ce vendredi. Les demandeurs d'asile à la frontière doivent désormais obtenir un rendez-vous sur une application téléphonique centralisant les demandes ou être refusés dans un des pays traversés avant la demande. Sinon, ils pourront faire l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée avec une interdiction d'entrée sur le sol américain pendant 5 ans. Ces derniers jours, plus de 10 000 migrants sans visa ont chaque jour traversé la frontière, selon des médias américains. Des dizaines de milliers d'autres attendent de le faire. Les Nations Unies ont exprimé des inquiétudes sur des règles de l'immigration américaine et ont appelé à une coordination et des solutions régionales.
Un chef du djihad islamique a été tué aujourd'hui dans la bande de Gaza, ont annoncé des responsables du groupe, alors qu'Israël a repris ses raids dans le territoire enclavé et que des combattants palestiniens ont tiré des roquettes vers Jérusalem. La mort d'Iyad al-Hassani, membre du conseil militaire du djihad islamique, porte à 6 le nombre de dirigeants islamistes tués depuis qu'Israël a débuté mardi matin ses bombardements. Au moins 31 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, ont été tués au cours des 3 derniers jours lors de cette campagne contre le deuxième groupe armé le plus puissant du territoire derrière le Hamas. Les États-Unis vont engager une série d'actions pour renforcer leur posture défensive dans le Golfe Persique, a indiqué aujourd'hui un porte-parole de la Maison-Blanche. Cette décision, dont les détails seront rendus publics dans les prochains jours par le Pentagone, se veut une réponse à la saisie par l'Iran de navires commerciaux dans la zone, dont fin avril, un pétrolier battant pavillon des îles Marshall et à destination des États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera demain samedi à Rome le président italien Sergio Mattarella, a indiqué un porte-parole de la présidence italienne. Une source du Vatican a également déclaré aujourd'hui qu'une rencontre de M. Zelensky avec le pape était possible. Et puis la justice pakistanaise a ordonné la libération sous caution de l'ancien premier ministre Imran Khan pour 2 semaines, a déclaré son avocat ce vendredi, après que son arrestation a déclenché des manifestations meurtrières et des confrontations avec l'armée. Au moins 9 personnes sont mortes dans des incidents liés aux manifestations violemment réprimées par les forces de sécurité. Des centaines de policiers ont été blessés et plus de 4000 protestataires arrêtés, principalement dans les provinces du Punjab. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Le Sénégal a signé un accord avec le FMI de plus de 1,8 milliard de dollars pour soutenir ses réformes économiques sur une période de 3 ans dans le cadre des programmes de mécanismes et facilités de crédit élargis. Ce financement servira à réduire les vulnérabilités de la dette, renforcer la gouvernance financière et le dispositif anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme et adopter une politique d'emploi inclusive en renforçant la sécurité sociale et l'égalité des genres. En Éthiopie, la Banque centrale a délivré à l'opérateur kényan des télécoms Safaricom la première licence de transfert d'argent par téléphone mobile accordée à un opérateur étranger. Safaricom s'est vu attribuer en 2021 la seconde licence de téléphonie mobile en Éthiopie aux côtés de l'opérateur public Ethio-Telecom. Safaricom Ethiopia, consortium dirigé majoritairement par Safaricom, comprend notamment l'opérateur sud-africain Vodacom et le groupe japonais Sumimoto. L'Alliance mondiale de l'énergie pour les personnes et la planète s'est associée au Youth Energy Summit en qualité de premier partenaire. YES est une plateforme qui permet aux jeunes entrepreneurs de rencontrer des acteurs du développement. Le programme vise à servir 100 millions de personnes en Afrique en 10 ans à travers un réseau de fournisseurs de solutions. Les jeunes entrepreneurs sont confrontés à des obstacles qui les empêchent de profiter des opportunités de formation, de financement de projets et d'emplois décents, a déclaré le vice-président de la GEAPP pour l'Afrique, Joseph Nganga.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Football, Carlo Ancelotti loue l'importance de Courtois au Real Madrid.
L'entraîneur du Real Madrid a tenu à souligner ce vendredi l'importance de son gardien belge Thibaut Courtois après le nul un but partout contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions mardi. Thibaut Courtois a des qualités énormes et c'est une chance d'avoir un gardien comme lui, a déclaré Ancelotti en conférence de presse à la veille de la réception de Rétafé lors de la 34e journée de Liga.
En France, le PSG est en bonne voie pour remporter le titre sans les ultras et avec la présence de Messi.
Sans les ultras en grève depuis mercredi jusqu'à nouvel ordre, Jean-Roger, mais avec Léo Messi de retour de suspension, le Paris Saint-Germain reçoit demain, samedi, Ajaccio. Le collectif Ultra Paris a décidé de cesser provisoirement son activité en tribune en raison d'un conflit avec la direction du club, sans compter les résultats sportifs décevants. Mais Paris peut se rapprocher encore un peu plus d'un 11e titre de champion de France. Ce serait un record absolu car le PSG pourrait devenir le club le plus titré en championnat de France devant Saint-Étienne et ses 10 trophées.
NBA, Denver fonce en finale à l'Ouest. Tatum sauve Boston à Philadelphie.
Denver a accédé en finale de conférence Ouest après avoir marché sur Phoenix 125-100. Guidé par Nikola Jokic, encore impérial, Boston a arraché un 7e match décisif à l'Est grâce à Jason Tatum, décisif sur le tard pour la victoire à Philadelphie 95-86 jeudi. C'est la 5e fois que les Nuggets atteignent ce stade des playoffs de la NBA après une première remontant en 1978 sans succès contre Seattle. Les trois dernières en 1985, 2009 et 2020 ont mis les Lakers sur leur route avec autant d'éliminations au bout. Si LeBron James et les siens éliminent Warriors champion en titre 3-2, d'intenses retrouvailles auront lieu.
Jeux Olympiques 2036, une candidature de Berlin est imaginable, selon la ministre allemande des Sports.
Une candidature de Berlin à l'organisation des Jeux Olympiques en 2036, 100 ans après les JO 1936, est imaginable, a déclaré ce vendredi la ministre allemande des Sports. Selon elle, il y a encore un travail historique à mener sur le déroulement de ces Jeux. Les JO en 2036 marqueront le centenaire des Jeux de 1936 organisés à Berlin par le Troisième Reich et utilisés par les nazis et le dictateur Adolf Hitler comme outil de propagande du régime.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, en vue de relancer le dialogue autour de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger, une délégation conduite par le ministre de la Réconciliation, le colonel Ismaël Ouagé, est arrivée ce matin à Kidal. Plus de détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Il s'agit d'une première depuis le retrait de la coordination des mouvements de la Zawad de toutes les instances de mise en œuvre de l'accord pour la paix. Cette visite de la partie gouvernementale est censée accorder les violons en vue de la bonne tenue du référendum prévu pour le 18 juin prochain, analyse le chercheur Ali Tunkara.
Cette visite également, ce qu'on peut retenir comme leçon, aujourd'hui l'État du Mali entend s'inscrire dans le processus référendaire. On sait que des endroits restent sous le contrôle des ex-rebelles qui sont aujourd'hui justement réunis au sein de la coordination du mouvement de la Zawad. De telles visites, il est fort probable que le compromis soit trouvé afin que le référendum est lié dans ces localités sous le contrôle des ex-rebelles.
Au-delà de la question urgente de la tenue prochaine du référendum, il s'agit, selon Ali Tunkara, de voir de façon globale comment l'accord peut être mis en œuvre au profit de tous les Maliens.
Aujourd'hui, un nombre important de Maliens ne se retrouvent pas forcément de cet accord pour la paix et la réconciliation. Donc ce qui mettrait l'État central dans une position à la limite un peu délétère, voire délicate, of S, faut-il appliquer effectivement réellement l'accord pour la paix et la réconciliation ou faut-il accepter d'y renoncer? Je pense qu'aujourd'hui, à coup sûr, l'État est dans les avoirs. Donc objectivement, cette visite, on peut l'inscrire dans une dimension d'apaisement.
Si le gouvernement va demander à la CEMA de revenir à la table de négociation, il est fort à parier que cette dernière va demander à ce que le gouvernement ne confonde plus la CEMA au groupe terroriste, comme cela avait été mentionné dans un communiqué. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Direction le Sénégal, ce vendredi, les principales entités politiques, mouvements citoyens et de la société civile, réunis au sein de la structure dénommée Force vive de la nation, F24, a organisé une manifestation contre une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall. Un combat qui reste l'une des seules constantes au sein d'une opposition divisée par l'appel au dialogue du président Sall. Davantage avec d'autres correspondants à Dakar, Seydina Abagay.
Cette manifestation contre une troisième candidature du président Macky Sall se tient dans un contexte tendu entre deux figures principales de l'opposition sénégalaise. D'un côté, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, instigateur du dialogue, et de l'autre, le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, qui ne veut pas s'asseoir à la même table que le chef de l'État sénégalais. Des divergences que certains militants comme Ibou Fall préfèrent ignorer. Pour eux, le combat est ailleurs.
Je dirais que l'essentiel, c'est le Sénégal qui importe. Parce que quoi qu'on puisse dire, il n'y aura aucun perdant ou gagnant. Parce que le grand perdant, c'est le Sénégal. Du coup, je suis là pour la démocratie sénégalaise, donc pour le peuple sénégalais. Depuis quelque temps au Sénégal, on déplore énormément de choses, dont l'injustice, l'utilisation des pouvoirs du peuple contre le peuple même. Du coup, aujourd'hui, on est sorti pour combattre pour la démocratie sénégalaise en grosso modo.
D'autres, comme Rokhaya Fall, pensent que les citoyens doivent se concentrer sur ce qui est le plus important à ses yeux, le vote.
Les disputes entre leaders politiques ne feront rien avancer. Le combat essentiel est celui des urnes. Après les inscriptions, ceux qui ne l'ont pas doivent aller récupérer leurs cartes et les respecter le moment venu en faisant un choix judicieux. C'est comme ça qu'on combat en politique, mais les invectives ne feront que nous diviser.
Quelques semaines après sa création, le mouvement F24, qui regroupe les principales forces de l'opposition, des membres de la société civile et des mouvements citoyens, a réussi sa première manifestation contre une troisième candidature de Macky Sall. Malgré les frictions notées dans l'opposition, la mobilisation a été totale. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le député allemand d'origine sénégalaise Karamba Diaby s'investit pleinement dans la promotion de l'intégration des immigrants en Allemagne. Sa propre expérience en tant qu'immigrant lui a donné une perspective unique sur les défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants. Il en parle dans un entretien avec Eric Manirakiza.
Naturellement, je suis en contact avec la communauté africaine. Je suis engagé dans des ONG avant d'entrer au Parlement. J'ai engagé dans plusieurs ONG. J'étais président de plusieurs ONG. Quelques-unes d'entre elles, je les ai créées. Et que ce soit des ONG qui travaillent avec les Sénégalais, mais d'autres aussi. Je rappelle aussi que j'étais le président des étudiants, de l'association des étudiants étrangers à l'université de Halle pendant plusieurs années. Donc, bref, je connais ces problèmes d'intégration. Je connais la situation des Africains, des étrangers en Allemagne. Bon, le racisme, on en a parlé, ça c'est un problème qui existe. Il y en a, les Noirs et les musulmans sont les plus touchés par le phénomène de racisme en Europe et en Allemagne aussi. Bon, ça c'est un défi à lever, c'est un problème qui est là. Deuxièmement, l'intégration, donc sur le plan de la formation, de l'éducation, du travail, tout ça, ce sont des thèmes qui sont importants avec lesquels je communique et je coopère avec les ONG. Et je suis dans le conseil d'administration de plusieurs ONG, donc des étrangers, pas seulement des Africains, pas seulement des Sénégalais, mais aussi d'autres pays. Donc bref, je suis en contact dans les réseaux des étrangers ici.
Est-ce qu'ils trouvent du travail facilement?
Bon, ça dépend. Ça dépend maintenant du niveau de formation. Il y en a qui ont une formation très élevée. Quand on prend l'exemple des Africains, par exemple, de Camerounais ou bien des Sénégalais et d'autres pays, il y en a beaucoup qui ont une formation élevée. Plus la formation est assurée, plus on a le travail. Donc, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de chances. Quand on y a une formation, donc on a la possibilité de travailler. Naturellement, il faut faire toujours la différence entre les personnes qui sont venues à travers les canaux pour étudier ici, pour faire des recherches, et ceux qui sont venus comme réfugiés. Bon, ça, il faut toujours faire cette différence. Il y a tous les groupes qui sont représentés. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui est venu comme réfugié et qui n'a pas l'accès à toutes les potentialités au début. Bon, avant que la décision officielle tombe, qu'il soit accepté comme personne réfugiée, bon, ça dure, c'est un processus qui dure. Avant que la personne apprenne la langue allemande et essaie de trouver du travail, il y a des barrières qui sont là, qui sont à surmonter. Bon, donc, ça c'est un groupe. Il y a l'autre groupe dont j'ai parlé, et dont je vais parler, c'est ceux qui sont venus comme étudiants, donc ils ont d'autres bases de départ. Donc, on ne peut pas donc les comparer. Il n'est pas possible de faire une analyse de manière générale sur tous les groupes. Les groupes sont différents, les accès sont différents. Quant à moi, j'étais venu comme étudiant, j'ai étudié ici, j'ai fait mon doctorat. Il y a ma famille qui est là et je travaille depuis plus de 30 ans. Donc, c'est autre chose que quelqu'un qui est venu comme réfugié et qui a des problèmes d'accès à certaines sources, capacités de la société.
C'était Karamba Diaby, député allemand d'origine sénégalaise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, l'ordonnance sanitaire d'urgence utilisée pendant la pandémie à la frontière américano-mexicaine pour expulser rapidement les migrants vers le Mexique ou vers leur pays d'origine a pris fin. La correspondante de VOA pour l'immigration, Aline Barros, rend compte de l'évolution de la situation le long de la frontière sud du Texas. Le récit est de Nani Talani.
L'avenir des migrants qui attendent au Mexique pour espérer entrer aux États-Unis est incertain. Alors que de nouvelles mesures d'immigration sont déployées, des questions se posent.
Elle d'abord, puis toi.
Le titre 42, une mesure sanitaire prise pendant la pandémie, permettait l'expulsion rapide des migrants vers le Mexique ou leur pays d'origine. Maintenant qu'il a expiré, les migrants ne savent pas quoi faire. L'administration Biden a annoncé de nouvelles restrictions d'asile. Mais des gens comme Priscilla Horta, qui est avocate en droit de l'immigration à Brownsville, au Texas, traversent la frontière vers Matamoros, au Mexique, chaque semaine, pour expliquer aux migrants le processus auquel ils sont sur le point de faire face.
Si vous entrez en utilisant d'autres méthodes que l'application ou juste un rendez-vous préprogrammé, vous ne serez pas considéré comme éligible à l'asile. C'est ce que ces personnes qui attendent, surtout ici à Matamoros, recherchent précisément pour demander l'asile.
Priscilla Horta conseille aux migrants d'utiliser l'application CBP One pour obtenir un rendez-vous. Elle leur fait savoir que s'ils traversent sans autorisation, ils seront expulsés immédiatement. Mais même avec les 1000 rendez-vous supplémentaires disponibles sur l'application CBP One, les gens attendent un certain temps. Neris Arroz est une migrante cubaine qui attend du côté mexicain.
La même chose. Il n'y a pas d'espace. Nous sommes désespérés. Personne ne sait quoi faire.
Neris Arroz est arrivée à Matamoros il y a un mois et ne sait toujours pas quand sa famille pourra se présenter à un port d'entrée. Elle était comptable à Cuba. Si elle traverse pour entrer aux États-Unis, elle espère réaliser ses projets.
Entrepreneur et pour aller de l'avant, pour faire avancer ma famille.
À Brownsville, une hausse du nombre d'arrivées de migrants n'est pas quelque chose de nouveau. Eddie Trevino Jr. est juge du comté de Cameron.
La réalité est que vous avez des milliers, plus de 2000 qui viennent chaque jour.
Le juge Eddie Trevino du comté de Cameron soutient que les communautés le long de la frontière se préparent au pire, mais espèrent le meilleur.
Les gens continuent de parler de sécurité à la frontière ou de laisser entendre que la frontière n'est pas sûre. Et je serai respectueusement en désaccord avec cela. Ce n'est pas parce que nous avons eu ces augmentations du nombre de migrants que cela fait de la frontière une zone dangereuse. Cela vient de créer une situation où notre système d'immigration est en panne. Et nous savons cela depuis plus de 40 ans et pourtant, l'administration ou le Congrès continuent de repousser l'échéance en se disant qu'ils allaient laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, parce qu'ils ne veulent pas gérer les conséquences politiques.
Pour les gardes frontaliers, la mission est claire. Traiter les migrants qui remplissent les conditions requises par les directives actuelles en matière d'asile et expulser rapidement ceux qui ne le sont pas. Fidel Baca est agent de la garde frontière.
La frontière n'est pas ouverte, d'accord? Si vous franchissez entre les points d'entrée, vous entrez illégalement dans le pays, d'accord? Et il y aura des conséquences. Une chose qui va venir avec le titre 8, ce sont les conséquences. Ce que je veux dire par là, c'est que des gens vont être renvoyés, d'accord? On ne parle plus d'expulsion, mais c'est un synonyme, d'accord? Les gens seront déportés. Ils risquent l'expulsion avec une interdiction de réadmission de 5 ans.
Pour ceux qui ont pu franchir la frontière américaine, le voyage n'est pas terminé. Rossi Carillo demande l'asile. Son rendez-vous avec un juge de l'immigration est prévu pour mai 2024. Elle est en route pour Atlanta.
J'espère éventuellement amener mes enfants. Ils me manquent tellement. C'est vraiment dur d'être séparée de ma famille. Ils sont ma seule famille, ma mère, mes 3 enfants. Je n'ai personne pour les aider. Et je ne travaille pas, ils ne mangent pas. Mon rêve est de les avoir ici.
Les responsables américains de l'immigration exhortent les migrants à utiliser l'application CBP One s'ils envisagent de demander l'asile. Ils disent que les prochains jours seront chargés.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Salut tout le monde. Moon, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine, donc, cet engin super fast, super sonique, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref, les tout dont RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703-350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique, super rapide.